Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage, toujours en deux temps, on commence tranquille en France et puis on part au bout du monde, juste pour rêver, dans les endroits les plus étonnants de la planète. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Aujourd'hui à 17h, nous partirons dans un pays vraiment à part, un pays qui s'est détaché de l'Afrique il y a 165 millions d'années, où les animaux ont donc évolué différemment, on ne trouve pas tout à fait les mêmes, il y en a même qui n'existent nulle part ailleurs. On n'est plus vraiment en Afrique et pas encore en Asie, c'est le pays des plages de sable blanc, des lagons, des baobabs et des montagnes où il peut faire frais le soir. Je vous emmènerai à Madagascar. Et puis juste avant, maintenant, nous allons partir en France, dans les Deux-Savoie, une des plus belles régions de France avec le Mont Blanc, Chamonix, les lacs, les torrents de montagne, la mer de glace, les coteaux plantés de vignobles. C'est une région absolument magnifique, sans oublier Annecy, bien sûr, que j'adore, la Venise des Alpes. Tout ça dans un grand bonheur avec tous mes amis grands voyageurs. Il y aura Nathalie Elal, grande voyageuse, auteure. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Il y aura Olivier Pouls.
Présent.
Gastronome, plus en culotte courte.
Mais... Non, depuis un bout de temps. Mais peut-être que pendant les vacances, je vais les remettre.
Ça va pas tarder. Et puis également Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
Bonjour Philippe.
Alors Jean-Bernard, si on parle de la région des Deux-Savoie, Savoie-Mont-Blanc, qu'est-ce qu'on fait pour bien localiser les choses ?
Écoutez, c'est plutôt sur la droite de la France, en dessous du lac Léman, dessous du Jura, et à droite de la vallée du Rhône, à droite de Lyon. Voilà. Il y a deux départements, on fait le petit quiz des départements.
Allez,
un petit 73, c'est quoi ?
Oh là là.
Bah, la Savoie.
Ouais, c'est la Savoie. 74.
Haute-Savoie.
Ah ben voilà, on y est.
C'était pas dur.
Deux chefs-lieux, Annecy, vous l'avez dit, et Chambéry, les deux villes principales de cette magnifique région.
Merci Jean-Bernard. Nathalie.
Oui.
Vous, c'est plutôt le bottin mondain qui vous intéresse.
Oui, alors je ne les ai pas du tout pris par ordre alphabétique. C'est plutôt pêle-mêle, les noms de ces belles régions.
Ouais.
Alors je commencerai par l'explorateur et écrivain Roger Frison-Roche.
Ouais.
Bon, il est né à Paris, mais bon, il a vécu beaucoup, beaucoup à Chamonix, bien sûr, issu d'une famille savoyarde et connu pour ses œuvres comme Premier de Cordée ou La Grande Crevasse, par exemple. Ensuite, le mythique entraîneur Aimé Jacquet, évidemment.
Oui.
Ben
il
oui,
est là-bas.
Bien sûr. Et puis, il habite entre Annecy et Thônes.
Ouais.
André Dussolier, grand acteur, né à Annecy et plusieurs fois césarisé, évidemment. Le présentateur de Quotidien sur TMC, Yann Barthès.
Ah oui.
Oui, né à Chambéry. Le couturier Pierre Balmain, né en 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne, qui a créé sa maison de couture éponyme en 1945. Et pour finir, un homme dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui a inventé un produit que nous avons tous chez nous, un produit vraiment d'utilité publique, peut-on dire, ces temps-ci, puisqu'il s'agit de l'eau de Javel, inventée par le savant et chimiste Claude-Louis Berthollet. Il était né à Talloire, près d'Annecy, en 1748.
Et est-ce que vous savez pourquoi de Javel ?
Non, ça je sais pas.
Ben oui, mais j'aimerais bien savoir ça. Ça ferait qu'on
en tout cas, il est raccord avec le paysage parce que ça blanchit tout.
Pas mal. Bonne reprise de volée, Nathalie. Bien joué.
Je vous en prie.
Olivier Pouls, bon, on va manger gras, je crois.
Bah, moi, désolé, mais quand je pense à la cuisine de Savoie, moi c'est ça. Hein.
Dis ça, la mine du fil, c'est un mangeur.
Alors, si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein.
Merci, Bernard. C'est une blague de crétin, ça.
Mais j'y suis pour rien.
Tiens, mon œil.
Ben oui, les plats estampillés sport d'hiver.
Et oui.
On s'y voit après une bonne petite journée de ski.
On adore.
Tartiflette, fondue, raclette. La Savoie, c'est évidemment le pays des fromages, de la charcuterie, mais pas que, comme on dit. Les crozets aussi, ces petites pâtes délicieuses. Et puis, vous verrez tout à l'heure des desserts absolument irrésistibles et plein d'autres choses que je vous ferai peut-être goûter.
Bah, j'espère. Oh. À tout à l'heure, Olivier. Tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai à Madagascar, au pays des Lémuriens, à la longue queue aux anneaux noirs, sur l'île des baobabs et des forêts tropicales. Et puis, nous visiterons donc dans un instant les Savoies. là où se trouvent les lacs les plus purs de France. Nous serons en compagnie de Mercotte, que vous connaissez sûrement. Elle est jurée dans l'émission culinaire Le meilleur pâtissier sur M6 avec Cyril Lignac. Et puis, elle est surtout savoyarde et fière de l'être. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait 2 heures de voyage tous les après-midi, juste pour le plaisir de rêver et de s'évader ? Grand départ donc pour Madagascar tout à l'heure après 17h, la seule terre afro-asiatique de la planète, détachée de l'Afrique mais pas encore en Asie. Et là tout de suite, nous sommes toujours en Savoie et Haute-Savoie, au pays du Mont Blanc et de ses neiges éternelles. Notre guide cet après-midi est née à Aix-les-Bains, elle vit du côté de Chambéry, chroniqueuse culinaire à la radio, jurée depuis 8 ans dans l'émission Le meilleur pâtissier sur M6 avec Cyril Lignac. C'est un peu notre mamie gâteau qu'on adopterait tous, on voudrait l'avoir à la maison. Moi j'aimerais l'avoir autant pour les gâteaux que pour sa bonne humeur. Nous sommes en ligne avec Mercotte.
Bonjour à tous.
Bonjour Mercotte.
Bonjour à tous.
Bonjour Mercotte.
Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Ça va bien ?
Super, et toi ?
Super.
Bon, on vous laisse. Hein.
Mercotte, j'adore votre voix. Rien que quand vous dites bonjour, on est content. Vous pouvez nous redire bonjour ?
Bonjour.
Voilà, c'est super. C'est extraordinaire. Alors, vous êtes né à Aix-les-Bains, mais vous avez toujours vécu du côté de Chambéry, au centre-ville, puis juste à côté, à Saint-Alban. Saint-Alban-l'Est, c'est exactement où vous résidez encore aujourd'hui. Alors, vous avez beaucoup voyagé, mais vous n'avez jamais voulu vivre ailleurs qu'en Savoie. C'est votre ancrage. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette région ?
C'est une région qui respire la joie de vivre. C'est une région où on est bien, où on est loin de l'agitation des grandes villes, où tout le monde sourit. Hein. On est, c'est super agréable. En plus, c'est un endroit où les gens viennent en vacances. Nous, on n'a pas besoin de partir en vacances l'été. On a tout. On a la montagne, on a les lacs, on a le beau temps, parce qu'il fait toujours beau en été en Savoie. Donc, c'est super.
Il fait toujours beau en été en Savoie ?
Oui.
Ouais.
Moi là je suis en tournage, c'est l'hiver, c'est bien simple. Donc je peux vous dire que chez moi il fait chaud.
Alors c'est une région effectivement assez magnifique en termes de paysage. Mm-hmm. Parce que quels sont vos coins préférés par exemple ?
Alors déjà les lacs. Que ce soit la Savoie ou la Haute-Savoie, le lac du Bourget, qui est un lac plutôt romantique, c'est le lac cher à Lamartine, hein, autant suspend ton vol. On a le lac d'Annecy, qui a longtemps été le lac le plus propre de France. Maintenant, les lacs commencent à s'assainir, mais le lac d'Annecy, c'est un lac pas trop grand, un peu sauvage, magnifique.
Et puis
on a le lac d'Aigbelette.
La ville d'Annecy qui est à côté, qui est juste sublime.
Ah bah, la Venise de la Venise savoyarde. Ouais. Et on a le lac d'Aigbelette aussi, qui est un lac où les bateaux à moteur sont interdits. C'est un lac où toutes les équipes s'entraînent, où il y a souvent des championnats de France ou du monde d'aviron. On a tous les lacs de montagne, parce que en montagne, il y a plein de lacs. Donc déjà ça, c'est super. Ensuite, pour les gens qui aiment faire de la randonnée, mais c'est infini. Alors ça, je parle de l'été, mais l'hiver, je vous le dis pas. Toutes les stations de ski et tout, quoi. C'est le plus grand domaine skiable de je sais pas quoi, les Trois-Vallées, c'est peut-être même d'Europe. Hein.
Et comment sont les Savoyards ? Parce qu'ils ont une réputation de montagnards, accueillants, mais pas toujours facile d'accès, non ?
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la plaine en Savoie, il n'y a pas que la montagne. Hein. Ouais. Donc, non, mais ils sont sympas, c'est pas vrai, les gens vous sourient, les gens sont sympas. Vous savez ce que disait Jean-Jacques Rousseau ? Il disait « C'est dommage que les Savoyards ne soient pas riches, ou peut-être serait-ce dommage qu'ils le fussent, car tels qu'ils sont, c'est le meilleur et le plus sociable des peuples que je connaisse. » Alors quand même, ça ne correspond pas du tout à ce que vous venez de me dire.
Oui, sauf si.
Vous avez une idée reçue.
Sauf s'ils sont devenus riches.
Oh non, alors ils sont plus riches en Haute-Savoie qu'en Savoie. En tout cas, ça se voit plus en Haute-Savoie qu'en Savoie. Disons, ils sont plus expansifs en Haute-Savoie. En Savoie, on est plus réservé. Mais c'est tout, hein.
Est-ce qu'on se mélange entre la Savoie et la Haute-Savoie ? Ou est-ce que c'est vraiment deux mondes ?
Ah non, bien sûr qu'on se mélange. Moi, je travaille à France Bleu. France Bleu, c'est Pays de Savoie, c'est-à-dire Savoie-Mont-Blanc, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quand même, on a toujours l'habitude de dire, en Savoie, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais ça, c'était avant.
Et qui est torchon, qui est serviette ?
Ah ben ça, c'est votre choix. Et on met... ça dépend où on se place.
Et on ne mélange pas non plus les moules à gâteau, n'est-ce pas, Mercotte?
Absolument, tu as raison.
Alors, ce qu'on ignore souvent, c'est que la Savoie, ça a une forte empreinte piémontaise, hein, du nord de l'Italie.
Absolument.
Parce que c'est une région qui n'est française que depuis peu.
Enfin, depuis peu, oui, depuis 1860. En fait, c'était le duché de Savoie et de Nice qui appartenait au royaume de Sardaigne avec le Piémont. Mmh. Et en 1860, la Savoie et Nice ont été rattachés à la France. Et en 1861, un an après, le Piémont est devenu Italie. Est devenu italien, on va dire. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a une belle influence piémontaise, on va dire, enfin, tout au moins du nord de l'Italie. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le duché de Savoie, Chambéry a très longtemps été la capitale. Et puis après, c'est Turin qui a été la capitale. Donc, les deux villes sont vraiment proches. Mmh.
C'est les façades, ça se voit aux façades colorées.
Voilà, les façades colorées, comme à Nice d'ailleurs, hein, c'est un petit peu les mêmes couleurs, c'est ces façades jaunes, un petit peu orange doux, c'est tout à fait ça, ça se ressemble beaucoup, et c'est très agréable.
Ouais. Alors on va continuer à découvrir la Savoie-Mont-Blanc dans un petit instant, mm-hmm. avec vous Marcotte, vous restez en ligne si vous voulez bien.
Bien sûr.
Et vous nous livrerez vos balades préférées. À tout de suite sur Europe
1. Ah oui.
Et si on partait, Philippe Googler.
Si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, 2 heures au bout du monde, sans rien faire, sans effort, sans contrainte. Tout à l'heure, nous serons à Madagascar après le flash de 17h, une île absolument fascinante qui va des plages de sable blanc jusqu'aux coins de montagne. Tout est possible à Madagascar. Mais là, tout de suite, nous sommes en Savoie-Mont-Blanc, une région magnifique elle aussi. Nous sommes toujours en compagnie de Mercotte, juré dans le meilleur pâtissier sur M6. Qui terrorise parfois les candidats, mais toujours avec ce sourire que j'adore et cette voix merveilleuse. On va parler un petit peu de la montagne. Est-ce qu'il y a des balades, Mercotte, que vous adorez?
Ah, moi, il y a beaucoup de balades que j'adore. Moi, j'adore la montagne l'été. On est loin de la foule. Il y a des touristes, bien sûr, mais c'est tranquille. Et il y a deux endroits que je visite carrément tous les étés. C'est d'abord entre les Menuires et Val Thorens, c'est-à-dire en Tarentaise, pas mélangé, le chalet de Pépé Nicolas. C'est vraiment un de mes coins préférés. Il recrée quelque part la vie d'un chalet d'alpage. C'est un petit peu pédagogique, on va dire, parce que il y a beaucoup de touristes qui y vont. Ça se mérite, hein. On monte à pied quand même pour arriver au chalet. Et il y a tous les animaux de la ferme. Il y a des porcs, il y a de la volaille, il y a des chevaux, il y a surtout beaucoup de chèvres. On voit la fabrication du fromage le matin, si on y va de bonne heure, la traite. L'après-midi, même les enfants, ils peuvent traire les chèvres. On leur apprend.
Ah oui.
Et c'est vraiment incontournable. Si vous déjeunez, il y a une terrasse, il y a un restaurant, et sur la terrasse, les chèvres, elles viennent carrément piquer le pain dans votre corbeille à pain, quoi. Elles sont vraiment, ou elles sont au sommet du toit.
Enfin, tant, c'est magnifique. Tant que c'est que le pain, ça va.
Oui, bah, de toute façon, on ne les laisse pas faire. Hein. Et puis, en partant du chalet Pépé Nicolas, on peut faire une très belle randonnée qui est très familiale parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé au lac du Loup, qui est un des plus beaux lacs de la vallée des Bellevilles. Et là, c'est super aussi parce qu'après, on redescend et on prend un bon petit goûter qu'une tarte à la myrtille, forcément.
Oh là là, ça fait envie. Bon, on voudrait y aller avec vous aussi parce que vous avez l'air tellement sympa.
Bon, pour la myrtille,
ah mais oui, mais j'adore, moi.
Pour la myrtille, mais vous faites concurrence aux Vosgiens pour la myrtille. Attention, hein.
Dans les Vosges, il y a des myrtilles aussi.
On les appelle les bleuets, je crois, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a d'excellentes tartes. Et ça se mélange très bien avec le yaourt. Je ne sais pas comment vous la consommez là-bas, la myrtille, en Savoie.
Oh, nous, beaucoup en tarte chez nous, en tarte, Savoie. Hein.
D'accord.
L'après-midi, à 4 heures, quand on rentre de randonnée, là, une tarte à la myrtille, c'est incontournable. Un peu de chantilly si on est gourmand. Quoi.
Je crois qu'on a ramené tout de suite. Là. C'est bien, non, Olivier?
Je suis en train de la finir.
Une autre balade, Mercotte?
Et voilà, si on a un peu plus de temps, si on part un week-end par exemple, on va passer de la Haute-Tarentaise à la Haute-Maurienne en 2 jours. Donc on peut déjà aller à Tignes, parce qu'à Tignes, il y a le glacier de la Grande Motte, il y a un funiculaire. Moi, la première fois que je l'ai pris, c'est comme un métro, c'est sous terre, je savais pas, ça va très très vite. C'est vachement impressionnant. Et on arrive en direct à plus de 3000 mètres d'altitude quand même, sur la terrasse du Panoramique. C'est un super restaurant qui appartient à la famille Bouvier, qui qui est où on mange très très bien. C'est vraiment la belle qualité.
Ce que j'aime bien avec Mercotte, c'est que toutes les balades ont une destination qui est un restaurant.
Ah bah,
on peut pas manger une balade autrement.
On mange avant, on mange après.
Voilà, nous on aime bien manger en Savoie, on a une région gastronomique.
En fait, se balader ne sert qu'à éliminer les calories de ce qu'on mange.
Et mais voilà, c'est l'avantage. C'est pour ça que marche beaucoup, moi, parce que comme ça, je peux manger tous les gâteaux que je veux.
Oui, allez-y, je vous écoute.
Oui, donc on reprend le téléphérique après pour toucher vraiment la neige de la Grande Motte, hein, quand même. Il y en a même qui font du ski, mais bon, il y en a de moins en moins. Et puis après, on redescend, une fois qu'on a pris un bon petit encas. On fait à pied pour éliminer le tour du lac du Val-Claret. Après, on peut quand même dîner chez Ursus, le restaurant Ursus, qui est le Clément Bouvier, qui est un jeune chef étoilé. Ben oui, j'aime
la manger,
j'aime manger.
Mais est-ce que vous réussissez vraiment à éliminer tout ce que vous avez consommé sur le parcours?
Mais
parce
oui.
que l'équilibre doit être dur à maintenir.
Mais les minces comme un fil, vous rigolez ou quoi?
Non, je sais, c'était non. un vous général. C'était pas... En fait, je pensais à moi en vrai.
Non, mais il y a. Ursus, je vais quand même insister parce que est-ce que vous savez que dans la salle de restaurant, il y a 390 sapins du parc des Bauges qui ont été là pour le qui sont plantés là pour le décor? C'est impressionnant. C'est à ne pas manquer, quoi.
Ah, disons, vous la vendez bien, votre région. Est-ce qu'il y a une vraie gastronomie en Savoie?
Oh ben, je crois qu'on est une des régions les plus étoilées de France. On a bien plus de 50 étoiles dans nos deux départements.
50
on
étoiles
On a 3 étoiles. Plus de 50 maintenant. Là, j'étais il y a un an ou deux. Ça, maintenant, toutes les années, ça change. Maintenant, on a un nouveau 3 étoiles depuis l'année dernière. Non, 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 on a beaucoup. C'est génial.
Ah, oui, mais alors c'est 50 étoiles, 50 fois une, ou ça dépend comment
on
divise?
Non, il y a trois. Non, il y a Emmanuel Renaud, le flocon de sel à Megève, qui en a trois. Les meilleurs, René et Maxime Meilleur à Saint-Martin-de-Belleville, qui en ont trois. Laurent Petit au Clos d'Essence à Annecy, qui en a trois. Jean Sulpice, qui en a deux. Il y en a plein qui en ont deux. Il y en a beaucoup aussi. Une étoile, il y en a beaucoup aussi.
Et alors, moi, ce que j'aime bien en Savoie, c'est qu'il y a des bons plats, mais il y a surtout les bons vins qui vont bien avec.
Et oui, et Dieu merci, la réputation des vins de Savoie ne fait que grandir depuis quelques années. Et c'est très bien parce que les gens y croient que c'est l'horrible piquette qu'on mange avec la fondue. Mais c'est pas ça les vins de Savoie. Il y a plein de jeunes viticulteurs, il y a des vins nature, c'est une région riche et qui commence à être reconnue. Et ça me satisfait.
Vous avez raison, on en parlera dans un instant. Mais il y a aussi beaucoup de cépages autochtones en Savoie qui font la particularité de ces vins de Savoie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Nulle part ailleurs.
Moi, j'aime bien la roussette.
Oui, par exemple.
J'adore la roussette.
Ça, la roussette, c'est assez classique.
Mais la mondeuse, qui est aussi un très beau cépage, donne des vins remarquables.
Très bien. Merci beaucoup. Ah, Jean-Bernard veut intervenir.
Une petite question linguistique, excusez-moi. Est-ce qu'on prononce les Z à la fin? La Forclaz?
Non, on dit la Fécla.
Ah, voilà, la Fécla.
Le col de la Forclaz, la Fécla.
D'accord. Oui,
ça, on ne prononce pas les Z.
Voilà, exactement.
Avoria.
Avoria, exactement.
Et Chamonix.
Et Chamonix.
Oui. Très bien.
Chamonix, voilà.
Merci beaucoup, Mercotte. J'adore vous écouter. Je vous garderai pendant des heures. Merci de nous avoir parlé de votre région. On vous retrouvera à la rentrée dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Vous êtes d'ailleurs en ligne depuis le château de Grousset à Montfort-l'Amaury pour le tournage de la nouvelle saison, là, en ce
moment. Absolument.
Et puis pour les amateurs de cuisine, ils peuvent se rendre sur votre blog mercotte.fr pour y retrouver des milliers de recettes. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir, Mercotte. On se retrouve dans un instant avec les histoires délicieuses de Nathalie Elal, les histoires qui se nichent dans le passé de la Savoie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 dans les endroits où on aimerait tous passer nos vacances? À 17h tout à l'heure, Madagascar. Et là, tout de suite, la Savoie et la Haute-Savoie avec Nathalie Elal, dont la mission est de nous trouver des histoires extraordinaires dans les régions et les pays qu'on traverse. Et là, vous nous avez déniché une histoire glaçante, celle des pruneaux de la mort.
Oui, alors il s'agit des trois pruneaux de Jacques Balma. Alors Jacques Balma, c'est le premier homme à avoir littéralement conquis le Mont Blanc, appelé à l'époque le Mont Maudit ou la Montagne Maudite. Alors il était accompagné d'un médecin de Chamonix qui s'appelait Michel Gabriel Paccard. Et ce Jacques Balma, c'est un laboureur qui parcourt la montagne pour chasser le chamois ou pour recueillir le cristal pour les joailliers de Genève ou du Léman ou pour les marchands de boucles de chaussures. C'était un métier assez lucratif à l'époque. Et le jour où il réussit sa première ascension jusqu'au sommet du mont, il y a 5 guides qui rebroussent chemin. Mais lui décide quand même de poursuivre et de tenter sa chance en solitaire.
Tout seul dans ce
Tout
blizzard.
Tout seul, comme un grand dans ce blizzard. Et quand il parvient au sommet, nous sommes le 8 août 1786, pour laisser une preuve de son passage, eh bien il enfouit les 3 noyaux de pruneaux consommé lors de son ascension dans la neige. Il a tordu le cou à la vieille superstition de la montagne maudite. Il reçoit évidemment une forte récompense. Mais par contre, vous allez voir, ces pruneaux, eux, ils portent la chkoumoune.
Bah oui, il ne faut jamais laisser
ces noyaux de pruneaux.
Noyaux de pruneaux. On ne laisse pas ces crasses en haut de la montagne, quand même.
Ni ces peaux de banane, n'est-ce pas, Philippe Googler ?
On ramasse. Bien sûr. On ramasse.
Alors, 100 et quelques années plus tard, des guides de haute montagne retrouvent les noyaux de pruneaux. Et ça devient un peu des reliques auxquelles on attribue des vertus de protection et de bonheur. Donc, ça passe de main en main. Mais ça provoque à chaque fois la mort tragique du détenteur des noyaux.
Mort.
Oui, oui. 10 personnes en tout ont succombé pour avoir eu les reliques entre les mains.
Ah bon ?
Ouais.
Mais on mourrait de quoi en général ? On
mourrait de tout, de tomber dans une crevasse, d'être enseveli sous une avalanche, de tout ce que vous voulez.
Juste d'avoir touché les noyaux.
D'avoir les noyaux de pruneaux en main. Donc en fait, il a vaincu la malédiction de la montagne, mais peut-être que les pruneaux se sont chargés de la malédiction.
Ah Et bon. Ils sont où maintenant les pruneaux ?
Ah ben je sais pas, dans l'intestin d'une marmotte, j'imagine.
Je sais pas dans quel état elle est, la marmotte.
Moi non plus, je veux
Parce
pas
que
le savoir.
La marmotte se nourrit de noyaux de pruneaux, c'est bien connu. Donc, très, très bien. C'est tout ?
Non, c'est pas tout. Enfin, sur ça, c'est tout.
Ah, d'accord. Mais c'est dingue, cette histoire.
Oui,
c'est,
ça vous
c'est
plaît.
C'est marrant, c'est peu connu. Oui, ouais, tout à fait. Alors, vous avez aussi exploré d'autres endroits assez sombres de l'histoire de l'histoire de la Savoie et des Savoies. Ce sont les conduites de cheminée.
Oui, il n'y a pas de pruneaux dedans, hein, je le dis tout de suite. Hein. Alors, ce sont les petits ramoneurs. Vous savez, c'est l'emblème un petit peu joyeux et coquin des pays de Savoie. Alors, c'est une histoire un peu particulière. Ça rappelle, en fait, l'émigration saisonnière de la Savoie à cause de la rudesse du climat qui interdisait évidemment toute activité à la population agricole. Donc il y avait beaucoup d'enfants, les enfants de familles nombreuses, il n'y avait pas à manger, donc il fallait trouver une activité de complément. Donc on recrutait dans 3 régions qui étaient la Maurienne, la Tarentaise et la Vallée d'Aoste des enfants pour le ramonage des cheminées. Des enfants très jeunes, parfois des enfants de 6 ans, 7 ans. Oh. Alors, ils étaient recrutés par ce qu'on appelait des maîtres ramoneurs. Ils quittaient leur famille sous la houlette du maître ramoneur pour aller ramoner les cheminées dans les villes.
C'est au 10e... Ça devait pas toujours être gay.
Non, alors effectivement, bon, c'était pas terrible. Alors, ils voyageaient à pied, parfois même nu-pieds pour économiser les sabots. Et ils emportaient parfois aussi avec eux une petite marmotte pour se rappeler leur pays. Ils la faisaient danser pour gagner un petit peu plus de sous. Ils partaient traditionnellement le jour de la Saint-Gras, c'est-à-dire le 7 septembre, et ils revenaient l'année suivante à la belle saison pour aider leurs parents dans les champs. Ils revenaient aussi avec de l'argent, enfin l'argent que le maître ramoneur avait bien voulu laisser à la famille. Alors, il faut savoir qu'ils ramonaient avec un hérisson, vous savez, c'est une brosse spécifique.
En métal,
mais,
là, qui gratte.
Ouais, qui gratte. Mais ils grimpaient aussi à l'intérieur des conduits de cheminée pour les racler. Et en arrivant en haut du conduit, ils criaient « haut en bas !» Ils travaillaient avec une corde à nœud pour descendre dans la cheminée. C'était vraiment un travail dur, hein, pénible, hyper dangereux. Bon, c'était un peu la misère. C'était Cosette à côté, c'était la fête au village, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, en tout cas, ces enfants, ça a quand même cessé à une époque parce qu'il y a eu des lois qui ont un peu changé la donne. Heureusement, en 1874 et 1892, on a décrété qu'il fallait arrêter de faire travailler ces enfants. Et il y a un petit clin d'œil dans la littérature. Si vous avez lu un jour dans votre vie Les Misérables de Victor Hugo, vous retrouvez ce personnage du petit Savoyard auquel Jean Valjean va dérober sa pièce d'argent.
Ah, oui.
C'est un petit ramoneur.
Ah, et d'accord. Oui. Bon. Bien, vous avez une histoire un petit peu plus rigolote peut-être
C'est touchant aujourd'hui, j'étais dans une veine un peu lacrymale. Alors je vais vous parler de Flambeau. Alors Flambeau, c'est un de nos 30 millions d'amis. C'est l'histoire d'un chien soldat et facteur. Un chien loup attaché au 99e régiment d'infanterie alpine. Il a assuré le service postal, j'ai bien dit postal, pendant la plus grande partie de ce qu'on pourrait appeler ça carrière, c'est-à-dire jusqu'en 1937, entre Lens-le-Bourg à 1400 mètres d'altitude en Haute-Maurienne et Solières à 2700 mètres à côté de l'Italie. 10 ans sans jamais se plaindre en affrontant courageusement la neige, le froid glacial, le vent, tous les jours, Flambeau descendait de Solière, se rendait à la caserne Napoléon à Lens-le-Bourg, mangeait son petit casse-croûte, enfin sa gamelle, hein, et puis repartait chargé de courrier, rejoindre ses compagnons alpins à deux pattes. Jamais il n'a failli. Il a aussi sauvé la vie à des dizaines de personnes ensevelies sous les avalanches.
Mais il savait tout faire, Flambeau.
Et puis, oui, magnifique. Et puis l'heure de la retraite sonne. Et Flambeau passe le flambeau à l'un de ses fils. Un an plus tard, en 1938, il quitte discrètement le quartier Napoléon. Il remonte à Solière et puise ses dernières forces et meurt. Il est enterré sur place avec les honneurs militaires. Il y a même un monument à son effigie qui a été inauguré au cœur de Lens-le-Bourg en 1954 avec cette jolie inscription « Passant, je suis autre chose qu'un monument, peut-être plus qu'un symbole, je suis un exemple ».
Vous faites vibrer nos émotions.
J'espère
aujourd'hui.
Bien. Vous jouez sur... Sortez les Kleenex.
Ouais.
Je suis transporté.
On est transporté.
Je vous vois.
Mais ça m'a ouvert l'appétit en même temps.
C'est vrai. Ben, c'est une bonne chose parce qu'on ne va pas tarder à parler. Silence.
Le fantôme de Flambeau.
Flambeau.
Et à propos d'animaux, vous savez que la girafe Sophie a été inventée là-bas ? Aussi en Savoie ?
Non.
Et ben voilà, je vous le dis. C'est à la société Vully à Remilly en Haute-Savoie qui fabrique cette girafe mythique qui s'est vendue à 50 millions d'exemplaires et n'a pas pris une ride pour nos bébés.
Voilà. À suivre sur Europe 1, un très grand voyage à 17h dans l'hémisphère sud, la quatrième plus grande île du monde et un monde à part avec des animaux que l'on ne trouve pas ailleurs. Une terre d'aventure dans les montagnes et les forêts tropicales et puis une terre de paradis sur l'île de Nocibé. Et puis la suite de nos aventures en Savoie-Mont-Blanc dans un instant, l'heure du fromage avec Olivier Pouls.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait première heure, nous sommes en Savoie. Et la Savoie, c'est étonnant parce que Savoie est Haute-Savoie. Hein. Attention, il faut bien citer tout le monde, c'est très important. En Savoie, on commence toujours par parler des paysages. En disant, on va parler de la montagne, des torrents, des marmottes. Et on finit par dans 75% du temps à parler de ce qu'on mange. Vraiment,
pourquoi c'est... seulement 75%
oui,
du temps.
Oui, ça vous paraît peu.
Oui, je pense qu'on est même au-delà.
Olivier Pouls, la gastronomie savoyarde.
Incontournable, ça vous donne faim,
oh
ça.
Oh là là, j'adore le fromage, moi.
Mais tout le monde aime
c'est
ça.
Addictif.
Ben, vous savez, la gastronomie, c'est une gastronomie de montagne. Donc, ouais. Bien sûr, une gastronomie un peu roborative. Une gastronomie influencée aussi par l'histoire, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Savoie, de l'indépendance de la Savoie, qui est finalement quelque chose d'assez récent. Et qu'entre la Savoie et l'Italie, il y a eu pendant de nombreuses années une histoire commune. Et donc, forcément, on retrouve dans la gastronomie savoyarde cet héritage italien, avec la polenta, par exemple, qu'on prépare également beaucoup en Savoie.
Ah oui, c'est vrai.
Exactement. Ou des pâtes, hein, des pâtes savoyardes typiques. Qui sont des qu'on appelle les crozets.
Que je trouve un peu durail, moi, le crozet.
Mais c'est parce que vous ne les cuisez pas bien. Alors, c'est sûr que c'est une pâte qui a de la mâche, mais c'est bon, une pâte, ça ne doit pas être mou. Les Italiens, quand ils cuisent al dente, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que la pâte doit résister un petit peu sous la dent. Ouais. Et ce crozet, qui est donc une petite pâte carrée, typiquement savoyarde, est réalisé avec de la farine de blé et de la farine de sarrasin. Et ça se fait, ça se prépare délicieusement en gratin. Et puis évidemment, les charcuteries, les fromages, on va y revenir, et le fameux trio. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez. Vous êtes plutôt raclette, tartiflette ou fondue ?
Oh, les trois, moi.
Raclette.
Plutôt raclette.
Pourquoi raclette ? Je ne sais pas, ça racle. J'aime bien.
Ah, les trois, c'est dur. Moi, j'aime bien la fondue, la bonne fondue avec le bon fromage. Ouais. Mais pour faire une bonne fondue, il faut du très bon fromage.
Et sinon, il en faut même plusieurs.
Oui, il en faut plusieurs.
On met deux ou trois fromages, alors suivant ce qu'on a. Mais on met au moins deux fromages pour avoir une fondue équilibrée.
Moi, je fais la moitié-moitié.
Oui, à moitié-moitié, un temps pour temps. Ouais. Ouais. Et moi, j'aime bien la tartiflette, figurez-vous. Alors, ce qui est étonnant, la tartiflette, en réalité, ce n'est pas du tout un plat traditionnel. On a tendance à penser que c'est un plat qui remonte à la nuit des temps, mais pas du tout. C'est un plat qui a été inventé dans les années 70 par un restaurateur de station de ski qui avait des stocks de reblochons et il en avait acheté un petit peu trop et il ne savait pas quoi en faire. Donc, il a inventé ce plat, hein, pomme de terre, oignon, lardon, avec un demi-reblochon posé par-dessus qui vient gratiner le tout et puis apporter surtout beaucoup de plaisir. Et bien, c'est une recette qui n'a pas d'histoire si longue que ça. Mais elle est aujourd'hui évidemment incontournable et très populaire. Quant à la raclette, elle est plutôt originaire de Suisse. Elle s'est retrouvée en Savoie par la suite, mais c'est probablement dans les montagnes suisses que pour la première fois, mais il y a bien longtemps, on commençait à racler racler le fromage. Parce que la Savoie, c'est le pays du fromage.
Et pourquoi c'est le pays du fromage? Pourquoi là?
Ben, les troupeaux, bien évidemment. On parlait tout à l'heure des fermes. Dans ces fermes, il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a la traite. Et donc, bien évidemment, le Thoron, l'Abondance, le Beaufort, le Reblochon sont les étangs.
Mais les troupeaux, il y en avait partout en France.
Oui, mais il y avait une vraie culture d'élaboration dans les fermes. Les fermes, chaque fermier élaborait ses fromages. C'était une manière de conserver le lait aussi et d'en avoir pour l'hiver et d'avoir, de mettre, de stocker de la nourriture. L'un des plus célèbres, c'est le Reblochon. Est-ce que vous savez d'ailleurs d'où vient son nom ?
Reblochon ?
Oui. Pourquoi il s'appelle le Reblochon ?
Ah. Reblochon, il doit y avoir un truc, refaire quelque chose, retouiller.
On n'est pas loin. En fait, c'est un fromage qui naît au XIIIe siècle. À l'époque, pour éviter ce qu'on appelait les droits d'arriège, c'est-à-dire que les seigneurs qui contrôlaient les paysans venaient tous les jours contrôler la production et venaient surtout en prendre une bonne partie. Et donc, ils procédaient à la traite des vaches, mais les petits malins n'allaient pas jusqu'au bout. Ils faisaient ce qu'on appelle une traite incomplète.
Une mi-traite.
Et voilà. Et donc, ils attendaient que l'inspecteur soit passé pour faire le compte et dès qu'il était parti, il refaisait une traite et on appelait ça reblocher.
Ah,
blocher
génial.
Une traite, reblocher une deuxième traite. Et en fait, cette seconde traite était plus riche en crème et elle se prêtait mieux à l'élaboration de fromage. Donc, avec cette deuxième traite,
c'est un petit peu l'évasion fiscale avant l'heure. Ça.
Exactement.
Ça aurait pu s'appeler la roublardise, le fromage.
C'était tout à fait ça. Et donc, il reblochait. Ils faisaient leur fromage, ils les planquaient,
histoire,
et c'était une manière d'échapper en quelque sorte, vous l'avez dit, à l'impôt.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de fromage en Savoie ?
En Savoie, les lacs, évidemment, on en a parlé avec Mercotte tout à l'heure. Dans les lacs, il y a quoi ? Il y a des poissons, des grands, des petits. Et moi, ce que j'adore, c'est les petits, c'est les petites fritures de poissons, par exemple, qui est une spécialité savoyarde. Des tout petits poissons comme ça, qui font 4-5 cm. On va juste les fariner, on va les passer à la friture avec un petit filet de jus de citron, c'est parfait. Et puis les diots, incontournables de la Savoie aussi. Vous savez, c'est saucisses de porc cuisinées au vin rouge. Et puis un petit dessert.
Oui, bien sûr.
Et un petit dessert, c'est le traditionnel gâteau de Savoie. Alors, l'intérêt, c'est que vous pouvez en manger deux parts. Il n'est pas très calorique. Parce qu'il ne contient pas, non, il ne contient pas de matière grasse. Et il est très aérien. Le secret du gâteau de Savoie...
C'est comment le gâteau de Savoie ?
C'est un gâteau avec des œufs, avec évidemment un petit peu de farine, avec du sucre, avec de la levure. Mais le secret, c'est qu'il faut beaucoup battre les jaunes avec le sucre, ce qu'on appelle les blanchir. Ensuite, monter les blancs en neige, réincorporer le tout. C'est ça qui donne à ce gâteau son côté très aérien. C'est un gâteau...
Il n'y a que de l'air, en fait, dedans.
Voilà, il y a beaucoup d'air. Donc, soyez détendus, reprenez-en une deuxième part. Et c'est un gâteau qui a été créé au XIVe siècle, figurez-vous, par le cuisinier du comte Amédée VI. Il recevait l'empereur. Il voulait l'honorer et donc la forme de ce gâteau de Savoie en forme de couronne était destinée à honorer l'empereur.
Oh, j'adore quand vous racontez l'histoire des plats français comme ça.
Je préfère encore les manger, je parie.
Ah, moi, j'aime bien les histoires comme ça, j'adore. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Dans un instant, on retrouvera Jean-Bernard Carrier avec ses bons tuyaux pour profiter pleinement de la Savoie et de la Haute-Savoie. A tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Calogero qui est presque... Alors, il n'est pas savoyard, c'est pas loin, c'est de l'Isère, mais c'est pareil, on ne mélange pas les torchons et les serviettes entre les Isérois et les Savoyards. Nous sommes donc en plein cœur de ces belles montagnes, la Haute-Savoie, la Savoie, avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Jean-Bernard, par où on commence ?
On va commencer par les plages, avec tous ces lacs.
J'aurais dit, oui, les chaussures de rando,
non,
le ski.
Non, justement, on va y venir. Mais avec toutes ces plages, on a comme envie de déboutonner sa chemise, de se mettre en maillot de bain et de faire trempette.
Mais c'est froid dans les montagnes,
mais
non ?
Mais non, je vous ai trouvé une pépite balnéaire, une vraie pépite balnéaire, un petit paradis. Alors, c'est pas du côté du lac d'Annecy, c'est pas du côté du Bourget, c'est pas Aiguebelette non plus, c'est du côté du lac Léman. On n'en a pas parlé de ce fameux lac Léman.
Il est magnifique, ce lac, je l'adore.
Alors, il a un problème, c'est qu'il y a très peu d'espace où se baigner, sauf un, ça s'appelle Aix-Sénévé. C'est une vraie plage, à côté de ce village d'Aix-Sénévé, une vraie plage avec un beau sable doré, en pente douce, idéal pour les familles.
Côté français, hein, on est
côté d'accord. Français, on est vraiment côté français, on est dans le 74, tout au nord du 74. Alors comme c'est pas très profond, l'eau se réchauffe facilement. J'ai appelé mes amis, Ce matin, l'eau était à 21 degrés. Alors, je sais que
Olivier Pouls, lui, il faut une température tropicale type Seychelles. En dessous de 29, il ne se baigne pas. Nathalie, je pense que c'est pareil.
Je préfère
il vous faut
plonger
du 29.
Dans l'aquarium chez moi, désolé. Hein.
Alors, ce qu'on m'a quand même dit, c'est que mi-août, la température à la plage d'Aix-et-Nevé atteindra les 25 degrés. Je pense que ça devrait quand même être pas mal.
Ils ne sont pas un peu marseillais dans le coin ? Degrés, le lac Léman.
25 degrés, c'est vraiment une plage super. C'est un petit paradis, je vous l'ai dit. Alors, on n'est pas là que pour la bronzette. On peut aussi faire des activités. Moi, j'ai fait du stand-up paddle, par exemple. On peut faire du kayak, de l'aviron, du pédalo, du beach volley. Franchement, c'est un coin super sympa. Donc, notez bien cette petite pépite au bord du lac Léman. C'est la seule plage de sable doré dans le secteur.
Alors, quand on pense aux Alpes, évidemment, on pense un peu au sport et aux activités. Il y en a une qui vous plaît particulièrement ?
Ben, oui, mais ce n'est pas la randonnée. Vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, il manque un peu quelque chose en France, non ? Qui est associé aux Alpes ? Ça.
Ah !
Eh bien, voilà. Oui. L'ambiance des Alpes, le mythique Tour de France. Le Tour de France adore les Alpes et les Alpes lui rendent bien évidemment. Et il y passe chaque année ou presque et plusieurs cols de Savoie et des Hautes-Savoie sont entrés dans la légende grâce à ce fameux Tour de France, notamment celui que je préfère, le col du Galibier, 2642 mètres, 61 passages du Tour de France, un grand classique qui relie la vallée de la Maurienne à la vallée de Briançon, tout au sud de la Savoie. Alors, je vais quand même vous en parler parce que c'est aussi une attraction touristique, le col du Galibier. Ce n'est pas simplement une étape du Tour de France. L'ascension par le versant nord fait 18 km avec une pente à presque 7% de moyenne et certains passages au kilomètre frisent les 10 à 11%.
Vous voulez monter ?
Alors, pas en vélo.
En voiture.
Parce qu'au sommet, il y a quand même une super récompense. Ça vaut le coup de faire cet effort-là, que ce soit en vélo, à pied ou sans faire d'effort en voiture.
C'est
la récompense. Il n'y a même pas de ferme auberge. C'est très rocailleux. Il y a un côté très lunaire en haut de ce col. C'est la vue sur la barre des Écrins et le Mont Blanc. C'est l'un des plus beaux points de vue de la chaîne alpine. Je précise quand même que cette année, il y aura une belle étape le 17 septembre qui traversera les deux départements, Savoie et Haute-Savoie. Entre Méribel et La Roche-sur-Foron, il y aura 4 cols et 168 km. Je précise quand même que le Galibier, il est adoré des motards. Olivier, je sais que vous êtes un motard. C'est un col que les motards adorent gravir. Voilà. Il y a beaucoup de lacets, on peut faire des belles figures, c'est pas mal du tout.
Le Tour de France qu'on pourra retrouver sur Europe 1 à partir du 29 août, exactement. Bon, alors ça, c'est pour le vélo. Moi, quand je vois les touristes monter, enfin, ou les cyclistes plutôt, monter les cols comme ça, je sais pas ce qui les motive. Je trouve que c'est une torture épouvantable.
Mais c'est une jouissance, c'est une jubilation.
Une jouissance.
Ah, oui.
Le dépassement de soi, Philippe.
Ouais. Et il y a un dépassement de soi, et puis on peut dire, on l'a fait. C'est comme l'alpinisme, en fait.
Non, mais la jouissance dans la souffrance, j'ai toujours eu un peu de mal.
Il y a la récompense. Il y a la récompense au bout, quand même. Ça, c'est magnifique.
Bon, très bien. Une autre expérience un peu
ouais,
spéciale.
Il y a une expérience nature que j'aime beaucoup. C'est le lac d'Arbon, près d'Abondance. On reste toujours dans le 74, on est dans le secteur du Chablais, une région assez reculée qui se trouve pas très loin de la frontière suisse. Alors, c'est un tout petit lac de montagne, 1827 d'altitude, qu'on rejoint assez facilement à pied. Hein. On va pas se casser les mollets, c'est du 2 heures de marche, tranquillou, 500 mètres de dénivelé, c'est pas le problème. Alors, c'est pas tellement pour le lac ni pour la randonnée qu'on vient ici, enfin pas que, on y vient surtout pour voir des troupeaux de bouquetins. C'est l'un des meilleurs sites d'observation des bouquetins dans les Alpes. C'est vraiment un bon plan parce qu'on est sûr de voir ces troupeaux de bouquetins tout autour, sur les pentes autour de ce lac. Et on les voit parfois se battre les mâles pour avoir, j'imagine, les faveurs des femelles. Ouais. Et c'est vraiment un spectacle impressionnant. Ils ne sont pas du tout farouches, ils vous ignorent complètement. Donc vous êtes vraiment dans une espèce de paradis animalier, ouais. dans un site extraordinaire. Et en plus, pour Olivier, je pense aussi à vous, parce qu'il y a des tables de pique-nique autour de ce lac. Donc on peut sortir le reblochon au milieu des crocus. Et des gentianes.
Tout en observant le bouquin.
Eh bien voilà. Ça, c'est un vrai bon plan. Assez perdu.
Très bien.
Côté du Chablais.
Alors, ça, c'est côté nature. Côté culture, il y a des choses à faire.
Alors moi, il y a une station que j'aime beaucoup parce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Alors ça va être très tranché vos avis. Je suis sûr que vous la connaissez. C'est la station de Flaine.
Mais moi, je l'aime pas. Mais bon.
Alors moi, je l'aimais pas et j'ai appris à l'aimer parce qu'en fait, j'y suis allé avec un architecte qui m'a un petit peu décodé le site. C'est vrai que cette station de ski, il n'y a pas de chalet traditionnel en pin. C'est un ensemble de bâtiments rectilignes. C'est du béton brut qui date des années 60. À l'époque, ça avait un côté un petit peu hardi, osé. C'était la tendance. Donc ça a été inauguré en 1968 et aujourd'hui il y a un label patrimoine du XXe siècle. On a changé notre regard sur cette architecture-là.
ce côté très fonctionnel, très anguleux, eh bien voilà, c'était inspiré d'un courant architectural qui s'appelle le Bauhaus. Alors c'est vrai que c'est très tranché.
C'est les années d'explosion du sport d'hiver. Je vous avoue, je suis allé skier à Flaine dans les années, à la fin des années 70. C'était à l'époque quelque chose de très nouveau, d'extraordinaire, parce que comme vous le dites, c'est une station pour le ski.
C'est une station pour le ski, tout est fonctionnel. Alors on peut trouver ces bâtiments de ton gris teinté de jaune, complètement pas du tout fondu dans le paysage, mais je trouve que si, ils s'intègrent assez harmonieusement dans cette nature.
Donc vous y allez pour l'architecture.
On y va pour l'architecture et c'est devenu une attraction culturelle et touristique. Vous avez des vraies visites guidées qui vous emmènent découvrir l'esprit de l'architecte qui s'appelait Marcel Breuer, qui vous sera transcrit à travers cette découverte.
Mais c'est boche.
Non, on n'est pas d'accord là, Olivier. On va régler ça pour l'émission.
Bon, en tout cas, on peut toujours aller y faire du ski.
Comme des bouquetins.
Merci les amis. Dans un instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons pour le pays du Mora-Mora. Vous savez ce que c'est le Mora-Mora ?
C'est tranquille, tranquille.
Exact, on ne peut pas le coincer ce Jean-Bernard. le tranquille, tranquille, moi ça me plaît bien. Ce sera
c'est pas mal.
Madagascar.
Après toutes ces Alpes.
Notre prochaine destination, donc Madagascar, Baobab, plage de sable plan, piste défoncée, le bonheur. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et si on partait deuxième heure, c'est l'été, c'est donc le moment parfait pour lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, je vous emmène en voyage au bout du monde. Nous partons maintenant pour l'île Continent, le pays des animaux pas comme les autres, le pays du culte des ancêtres, Madagascar.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Au cours de mes périples en train pas comme les autres, je me suis retrouvé un jour dans un petit village malgache où était organisée une cérémonie en l'honneur des défunts. Alors on peut penser que c'était triste, mais pas du tout. Honorer les morts là-bas, ça commence par une bonne petite bouffe et puis une petite fête. Et on honore les morts qui sont partis il y a un moment déjà. 5 ans après le décès, et puis 7 ans après le décès, 9 ans, etc. Il y a un calendrier assez précis. Et parmi les défunts qui sont honorés ce jour-là, il y a la propre mère de l'organisateur de la cérémonie. Il s'appelle Randy, et sa maman est décédée il y a 5 ans. Et la cérémonie va tout à coup prendre un tour stupéfiant. Après le repas, tout le village se dirige vers le tombeau. Arrivé au tombeau, Randy me dit « Maintenant, on va sortir les linceuls qui contiennent les dépouilles des défunts. » Je suis un peu surpris. « Comment ça, vous allez ouvrir la tombe et sortir les corps ?»« Ben oui, c'est ça. C'est la tradition. On sort les linceuls des morts pour les faire participer, à la fête. » Donc je reste quand même un peu surpris, voire même sidéré, je ne vous cache pas. Et sous mes yeux, il y a un petit groupe d'hommes qui extrait d'un caveau de longs linceuls blancs de la taille à peu près d'un corps humain, et tout ça au son d'une petite musiquette joyeuse, d'un petit flutio léger. Le spectacle est vraiment surréaliste, inimaginable sous nos latitudes. Alors il y a Randy qui me dit tout à coup, là ça y est, mes parents vont être sortis. Je lui réponds, mais bon, c'est un tout petit linceul là. Oui, il est plus petit car il ne contient que les ossements de mon père et de ma mère. Et vous savez, ça pince un peu le cœur de voir le linceul de ses parents. Mais je me dis que lorsque mon tour viendra, je serai là, dans le même linceul, avec eux. Alors petit à petit, les linceuls sont alignés sur une sorte de terrasse plane située au-dessus du tombeau. Chaque linceul contient les restes de plusieurs corps, et la cérémonie consiste ensuite à envelopper les dépouilles d'un nouveau linceul, tout blanc, tout propre, et c'est Randy qui s'occupe lui-même de cette opération pour ses parents. Et Randy me dit, je partage comme ça un moment de joie avec l'âme de ma mère. C'est important qu'elle sente que je suis présent. Je dois toucher de mes mains les dépouilles de mes parents, car si je ne le faisais pas, ça voudrait dire que je ne m'occupe plus d'eux, que je ne les aime plus.
Et alors, tout autour de ça, là encore, j'insiste, c'est pas du tout triste. Il y a un mélange de fête, de tendresse pour les parents et les ancêtres, et en même temps un profond respect pour la tradition. Et j'en oublie même ce qui me troublait le plus au début, à savoir assister à la manipulation de restes humains, tout de même. Et ce qui va se passer ensuite est sans doute un des souvenirs les plus incroyables que j'ai pu avoir. Tout à coup, sans me prévenir, Randy ouvre une bouteille de rhum et en vide un peu sur le linceul de sa mère et de son père. Et puis il boit un coup lui-même, et puis enfin il me tend la bouteille. Donc je dois boire aussi, et je bois donc avec les vivants et les morts. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Eh bien c'est la fête, il faut partager le rhum avec les défunts, il faut que j'en donne à ma maman, parce qu'elle aimait le rhum, et surtout elle vient me voir la nuit pour me le dire. « Ah bon? Mais sous quelle forme est-ce qu'elle se présente à vous ?»« Eh bien, je la sens, je sens une présence. Ça ne me fait pas peur. Si ta maman vient te voir, c'est qu'elle t'aime. »
»16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous irons plus profondément encore dans Madagascar dans quelques instants.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Tous les après-midi sur Europe 1, un grand voyage. Nous sommes à Madagascar en compagnie de tous mes amis voyageurs. Nathalie est là, l'auteur grande voyageuse, avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
Hello.
Et puis, bien sûr, notre chroniqueur gastronomique préféré, Olivier Pouls.
Bah écoutez, je suis prêt à vous faire manger de la nourriture malgache dans pas très longtemps. Finalement.
D'accord. Et puis surtout, surtout, au téléphone, enfin en ligne, on ne dit plus au téléphone aujourd'hui, ça paraît que ça fait ringard, en ligne, nous avons, alors je prends mon élan, Hans Rambelomanana. Je l'ai bien fait, Hans ?
Oui, bonjour Philippe, bien fait, vous avez bien fait.
Alors Hans, je précise que vous êtes très très loin, vous êtes à Antsirabe, qui est une ville située au cœur de l'île de Madagascar. Vous êtes malgache, vous êtes propriétaire d'un hôtel là-bas, Antsirabe, dans le centre de l'île. C'est assez frais Antsirabe comme climat, c'est à 1600 mètres d'altitude. Qu'est-ce que vous voyez là-bas autour de vous, c'est quoi les paysages ?
Ben, Tirabé, on peut dire, c'est une des villes volcaniques du pays. Ouais, mmh. Tirabé, c'est entouré de volcans. Mmh. Ici, des rizières en terrasse. Bon, comme vous l'avez dit, et la ville culmine à plus de 1600 mètres d'altitude, ce qui fait de la ville la plus froide de Madagascar. Mmh. Mais bon, c'est très confortable, surtout pour les étrangers qui viennent visiter Tirabé. c'est une ville où il y a aussi une grande station thermale. Il y en a juste deux dans le pays et une se trouve sur Antsirabe. Et des gens aiment venir à Antsirabe parce que c'est pas très loin de la capitale. On est à 3 heures de route de la capitale. La route est bitumée avec quelques petits trous, mais ça roule bien.
je précise que si vous dites que la route est bitumée, c'est parce que justement il n'y en a pas beaucoup des routes bitumées à Madagascar. Et puis alors, c'est marrant.
Tout à fait.
Oui. Ouais, il y a beaucoup de pistes et beaucoup de virages. Je ne sais pas pourquoi. C'est un des pays où il y a le plus de virages au monde. Ça tourne tout le temps les routes là-bas. Je ne sais pas pourquoi.
Sinon, on s'ennuie.
Et alors, il faut préciser qu'on disait qu'il faisait froid en Tirabé, parce que quand on part à Madagascar, on se dit, je vais dans un pays chaud, je prends un t-shirt, un short, c'est bon. Mais non, on peut avoir très froid à Madagascar.
Oui, comme je vous l'avais dit, on est à plus de 1600 mètres d'altitude, ce qui fait que pendant la saison actuellement, c'est l'hiver.
Ouais.
Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Donc il fait très froid. Des fois, la nuit, la température peut tomber jusqu'à zéro, voire moins 2, moins 3. On a même dit qu'il y a des années, il y a eu de la neige sur Antsirabe, mais ça n'a jamais été prouvé. Par contre, la journée, il fait beau. Il fait frais. On est dans un pays tropical.
Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie montagneuse. Il y a aussi une partie paradisiaque et la partie la plus touristique, c'est l'île de Nosibé. Vous pouvez nous décrire un peu Nosibé ?
Nosibé. Nosibé, c'est une petite île qui se situe au nord-ouest du pays. Une petite île parce qu'elle fait à peine 321 km². Nosibé a des plages magnifiques. Il y a aussi de la forêt, comme par exemple la réserve de Loukoubé, où vous pouvez voir des caméléons, des geckos, des lémuriens. On ne peut pas être à Madagascar sans avoir vu des lémuriens, bien sûr. Oui. Puis il y a aussi la capitale, Elville. Il y a la distillerie de d'Ylang Ylang. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ylang Ylang, mais c'est une plante endémique de Nosy Be, pas de Madagascar, mais de Nosy Be tout simplement, dont on extrait l'huile essentielle pour faire des parfums des grandes marques.
Très recherché par les grands parfumeurs.
Nosy Be, c'est très très simple. Exactement, oui. Parce que c'est une plante endémique, je précise bien, endémique. Ouais. On ne la trouve qu'à Nosy Be, cette plante.
Mais d'ailleurs, la flore sur votre île est absolument phénoménale. Elle est très, très riche et beaucoup de marques, je crois savoir que beaucoup de grandes marques de cosmétiques, y compris françaises, viennent spécialement à Mada pour récupérer cette flore, avec des grands botanistes locaux et d'ici également.
Exactement. Il ne faut pas oublier que si on regarde les plantes endémiques en Europe, du Portugal jusqu'en Russie, vous avez à peu près 3000 plantes endémiques. Par contre, à Madagascar, on a 13 000 plantes endémiques, donc vous voyez bien la différence. Il y a des plantes qui sont utilisées dans le cosmétique, mais c'est surtout utilisé pour la médecine traditionnelle. Ouais. On se soigne beaucoup plus avec les plantes qu'avec les médicaments. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement des effets de l'artémisia qui pousse sur Madagascar, qui est utilisé pour lutter contre la pandémie. entre parenthèses.
Contre la pandémie, vous voulez dire
les plantes malgaches sont des plantes...
Contre la Covid-19
Ouais.
Contre la Covid-19, exactement. C'est une plante... Bon, on en a donné aux Africains, certains pays africains. Mais ouais. Pareil, et là, il y a une décoction, une tisane qui est faite à base d'artémisia. Oui. Qui est consommé dans tout le pays là, pour renforcer le système.
Ouais. L'efficacité n'est pas tout à fait prouvée, hein, si mes informations
pas
sont
encore,
bonnes.
Pas encore, mais ouais. Actuellement, c'est en vogue. C'est la mode dans le pays actuellement. boire ça, quoi. Faire de la tisane et boire le CVO.
Il n'y a pas que des plantes endémiques, il y a aussi des animaux endémique de Madagascar, comme le lémurien, qui est un petit animal adorable avec une longue queue. C'est mignon comme tout.
Oui, ils n'ont pas tous la longue queue. Les lémuriens, comme je l'avais dit précédemment, on ne peut pas avoir visité Madagascar sans avoir vu des lémuriens.
Ça ressemble
à quoi?
Donc on a
du plus petit au plus grand. Un lémurien, c'est comme les hommes, mais avec des poils. Là, ça se tient debout comme des humains.
On voit très bien.
Je parle pas de queue, hein. Je parle pas de la queue.
Ce débat dérive, mesdames, messieurs. Il est temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause. D'autres informations surprenantes sur Madagascar dans un instant, ouais. Sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et à Madagascar, nous sommes en ligne avec Hans Rambelomanana, qui tient un hôtel dans le centre de l'île, à Antsirabe. Et Madagascar, c'est très, très varié. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette île, ce sont les baobabs. Parce que le baobab, là-bas, c'est un personnage. D'abord, il est imposant, hein, parce qu'il peut faire 20 mètres de haut et parfois même 9 ou 10 mètres de diamètre. C'est un monstre, mais c'est un monstre qui a une tête sympa. Parce qu'au-dessus de la tête, il a des petites branches dirigées vers le ciel, comme ça, souvent sans feuilles, qui sont comme des petites racines dirigées vers le ciel. Donc, gros tronc, petite tête hirsute, comme ça. Et du coup, certains disent là-bas que les baobabs, et je trouve ça très très joli, que les baobabs sont là pour retenir le ciel. Que les baobabs accrochent le ciel avec leurs petites branches hirsutes en haut de la tête et qu'ils le retiennent en étant eux-mêmes solidement ancrés dans le sol avec leurs racines. Je trouve que c'est une très très jolie histoire. Ça tient toujours, Hans, le ciel est toujours retenu par les baobabs. Vous pouvez nous rassurer là-dessus?
Si le ciel n'est pas encore parti jusqu'à maintenant, c'est qu'il est bien retenu par les baobabs, ça marche.
Ça marche bien. Et le baobab est un peu sacré là-bas. Il y a aussi le zébu qui est un animal sacré.
Oui, tout à fait, oui. Il est très très sacré le zébu. Un homme sans zébu n'est pas un homme. Par exemple, si chez certaines tribus, chez les Bar, une tribu qui vit dans la partie sud de l'île, un jeune homme qui va se marier doit avoir volé un zébu qu'il va donner en dot à son futur beau-père.
Ah bon?
Le voler, s'il se fait attraper, il se fait lyncher. Voler, il faut que le zébu soit volé.
C'est
pas d'un village à côté, il faut que ce soit un village très loin. Il ne faut pas qu'il soit attrapé parce que sinon on va être lynché.
Et il ne peut pas être acheté.
Pour montrer sa bravoure. Il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter le zébu.
Ah bon,
il faut qu'il le vole.
Il y en a qui
trichent. Et comme ça,
non,
il va donner en dot à son futur beau-père pour. Non, parce que ça va toujours se savoir. Ah, et on va être montré du doigt si jamais on se sait.
Mais pourquoi? Parce qu'être un voleur, c'est bon signe?
Non, c'est pour montrer la bravoure, pour montrer au futur beau-père que même s'il est obligé de voler, il va toujours pouvoir subvenir aux besoins de sa fille.
Ah.
Donc voilà.
D'accord.
Alors,
il y a un truc qui est spectaculaire à Madagascar aussi, ce sont les combats de zébus qui se font dans des espèces de fosses creusées dans le sol. Moi, je trouve ça impressionnant. Vous pouvez nous raconter un peu ça?
Oui, c'est le combat de zébu, c'est le save qui on dit. C'est le rodéo malgache. En fait, le but, c'est de pouvoir s'accrocher sur la bosse du zébu, parce que le zébu a une bosse, contrairement à une vache. Mmh. Le zébu a une très grande bosse, et le joueur, il va s'accrocher sur la bosse du zébu, et le but, c'est de pouvoir l'immobiliser, sans aller jusqu'à tuer le zébu, comme dans certains pays. Mmh. Donc, parce que le zébu, ça reste une richesse. On ne va pas tuer une richesse, on ne va pas dilapider une richesse. Ça, c'est un jeu. Et c'est aussi pour les jeunes hommes de montrer aux jeunes filles ils ont de la bravoure, ils sont forts, ils peuvent être très forts.
Ouais. Voilà. C'est ça qui est chouette à Madagascar.
C'est qui est pratiqué dans la région du Bétiléo.
C'est ça qui est chouette à Madagascar, c'est qu'il y a à la fois des paysages incroyables, des moments de vie, c'est ces combats de zébus là, qui se passent dans des grandes fosses très profondes, et vous avez le public qui s'accroche sur le bord des fosses, donc visuellement c'est très spectaculaire. Et donc il y a ça, il y a les paysages, il y a les événements, il y a les gens qui sont adorables, et puis c'est le pays de la débrouille, on dit toujours ça, mais il y a vraiment ça dans le sang là-bas, Hans.
Exactement. Un mot qui n'existe pas dans la langue malgache, c'est « à jeter ». On essaie toujours de réparer les choses, même les briquets à gaz, on les répare. Les stylos, on les répare. Tout se répare.
Les voitures.
On ne va pas jeter une chose. Ouais. Et même le mariage, ça dure longtemps parce qu'on répare les mariages quand un couple est en difficulté, il y a toute la famille qui vient en aide pour essayer de trouver une solution.
C'est vrai, donc tout le monde essaie de réparer le mariage.
Exactement. La famille, les témoins, les amis, ils vont essayer de tout faire pour que le mariage ne casse pas, quoi.
Il y a une idée à exporter, là.
Ouais. C'est pas mal. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans le genre débrouille à Madagascar?
Ouais, mais j'ai vu, effectivement, l'art du recyclage.
Ouais.
C'est une récupération incroyable. Et au niveau artisanal, c'est exceptionnel parce que ça donne des œuvres d'art à partir de produits recyclés. Ouais. J'adore.
Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est les 4L. Il y a un nombre de 4L invraisemblables dont chacune semble être faite avec plusieurs anciennes 4L qui ont déjà bien vécu. Et c'est un montage dantesque.
Oui, il fut un temps où il y a eu dans les années 60, il y a eu une chaîne de montage de 4L à Madagascar. Il y a des 4L qui datent de cette époque, qui continuent toujours à rouler jusqu'à maintenant. Les années d'après, on a importé des véhicules d'Europe, de la Belgique surtout dans les années 90. Donc des 4L ont été découpés, mis dans des conteneurs. Il y a une vingtaine ou une trentaine de 4L dans un conteneur. Et quand ils arrivent à Madagascar, ils sont ressoudés et sont remis sur la châssis et ça roule. Et Nusibé, Diego sont les deux villes où on voit le plus de 4L à Madagascar actuellement.
Ah, c'est vrai que si on veut trouver encore des vieilles 4L qui roulent, Madagascar, c'est une mine.
Ben, je crois qu'Olivier Poul s'est intéressé d'ailleurs pour cette prochaine escapade avec une casserelle
à pistolet. C'est sympa.
Ouais, c'est sympa une 4L avec le levier de vitesse à côté du volant.
Ah, oui, c'est pas mal.
Sur Europe 1, plus de Madagascar, plus d'histoires, de légendes, de mystères avec Nathalie Elal et toutes ces infos incroyables dans un instant. Mais tout de suite, respiration. On écoute tranquillement Tom Gregory. Fingertips.
Et moi, je vais voler un zébu.
Europe 1, Philippe Googler.
Zara,
Et si on partait sur Europe 1, tous les jours de nouvelles aventures autour de notre belle planète. Alors là, ça va être l'aventure dans l'aventure, puisque nous sommes déjà à Madagascar. Et à l'intérieur de Madagascar, Nathalie Hélène nous a dégoté une république de pirates.
Oui, alors son nom c'est Libertalia. Là, je vous emmène chez les pirates, hein, pas ceux des Caraïbes, mais ceux de Madagascar. Alors, légende ou réalité? Parce que, en réalité, il n'y a eu aucune preuve tangible de l'existence de cette république qui aurait quand même duré, tenez-vous bien, 35 ans. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle et le capitaine Misson, un Français bien né, et le père Caraccioli, un prêtre débauché, embarquent...
Vos préférés?
Oui, j'adore un défroqué, ça me va très bien. Ils embarquent tous les deux sur le Victoire, qui est un navire de commerce français. Ils sont attaqués par les Anglais et au cours de l'attaque, eh bien, ils perdent leur capitaine. Donc, ils décident de s'inventer une nouvelle vie aux couleurs du Jolly Roger, c'est-à-dire le fameux pavillon noir à tête de mort, emblème des pirates.
Donc ils deviennent des pirates.
Et ils deviennent des pirates. Parce que dites-vous bien qu'à l'époque, la navigation, c'est une des professions parmi les plus dangereuses qui soient. Et à bord des navires marchands, la vie, elle est dure hein, pour les marins qui souffrent de la faim, de la maladie, et puis aussi, il faut bien le dire, des commandements arbitraires de la hiérarchie. Et à l'inverse, eh bien, le monde des pirates, lui, il privilégie les décisions collectives. Il y a une sorte d'entraide, un vrai partage des galères et même des bénéfices entre les mutins.
Donc c'est une sorte de paradis socialiste, le monde des pirates.
Oui, c'est même plus que ça. Donc après avoir décidé de rouler pour eux, ces deux compères vont naviguer des Caraïbes au golfe de Guinée jusqu'aux côtes de l'Afrique australe et ils découvrent à Madagascar leur paradis dans une baie du nord de l'île nommée Diogo Suarez. Et là, eh bien, leur gagne-pain est à portée de main parce que la route des Indes et ses navires commerçants chargés de soieries, d'épices, de pierres précieuses ou de vin, eh bien, elle est là. Donc ils s'organisent et ils fondent Libertalia. C'est un peu du communisme à la sauce pirate, sur fond de richesses partagées. Vous avez dit socialisme, moi je dis communisme. Ouais. Et même, il y a du rhum qui coule à flot. C'est un lieu alternatif avec ses propres règles. Par exemple, chaque groupe de 10 hommes va élire un représentant à l'Assemblée constituante qui est chargé de voter des lois. Tout est mis en commun, les butins sont partagés. Il y a même les retraites et les accidents
non.
du travail. Si,
il y a des retraites.
Bien sûr, avant l'heure, bien sûr.
À quel âge pivot?
Ça ne devait pas être très vieux parce qu'on mourait jeune à l'époque. Enfin, tout est couvert par la communauté. Et sur les bateaux attaqués, eh bien, ils vont pratiquer une piraterie quasi philanthropique. Ils confisquent les biens et le rhum, mais ils laissent l'équipage libre de les rejoindre. Ils décident du sort du commandant en fonction de sa réputation près de ses hommes. Attention. Et puis, ils libèrent les esclaves. Donc, ils vivent comme ça, d'une manière très agréable.
Donc, c'est des bons pirates.
C'est des gentils pirates. Malheureusement, vous allez voir, Philippe, les meilleures choses ont toujours une fin. Et après bien des guerres, les grandes puissances autour parviennent finalement à s'allier. Et au milieu des années 1730, elles vont anéantir ces zones de non-droit pour assurer la sécurité en mer. Et c'est la fin de l'âge d'or de la piraterie dans l'océan Indien qui a quand même duré entre 1650 et cette année 1730. Alors aujourd'hui, à quelques 8500 km au nord donc de Madagascar, Diego Suarez existe toujours et la ville abrite aujourd'hui un bar dans lequel on trouve une bière nommée Libertalia. Ouais. Et il y a même une poignée de malgaches avec les yeux bleus. Et l'on raconte qu'ils seraient soit des descendants des marins en fuite, donc des pirates, ou bien des colons, selon les versions. Parce qu'on ne sait toujours pas si c'est une légende ou la réalité. Mais moi, j'aime à penser qu'il s'agit de la réalité.
C'est dingue, cette histoire. Hans, vous êtes en direct de Madagascar. Vous connaissez cette histoire? Vous pensez que c'est vrai?
J'en ai entendu parler. J'étais à Diego, je connais bien la ville. Et là, il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, c'est que les gens de la Libertalia, le capitaine Misson et autres, ils avaient les premiers à avoir les idées de liberté, d'égalité et de fraternité.
Oui.
Donc ça a été repris par les Français plus tard.
Avant de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens.
Exactement. Ouais. Donc oui, ça pourrait avoir existé. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont encore des yeux bleus, comme vous l'avez dit. Faut pas oublier par contre que Diego a servi de base militaire français pendant la colonisation.
Ah, d'où les yeux bleus.
Ce qui fait que c'était à Diego ou les Français. Oui, c'est ce qui veut dire que Diego, les Français sont restés sur Diego jusqu'en 1973, même bien après l'indépendance.
Mais ils étaient tous...
Donc sent une belle...
Ils n'étaient pas tous débauchés des Froquets.
On sent
hein.
une belle présence française. Non, pas forcément. Pas forcément.
Merci.
Il y a une grande influence française à Diego.
Ouais. Merci beaucoup Hans de nous avoir parlé de votre Madagascar. Je rappelle que vous possédez un hôtel à Antirabé. Vous nous avez beaucoup, beaucoup fait envie parce que c'est une terre vraiment magnifique et extrêmement riche avec beaucoup d'aventures à vivre. À une prochaine Hans, merci beaucoup.
On irait bien le voir.
Ouais.
À une prochaine, merci.
Comment
Au revoir.
Juste un petit truc, comment il s'appelle votre hôtel pour vous faire un peu de pub?
Oui, qu'on ne se trompe pas.
La résidence Mahasua.
Très bien, c'est noté. Merci Hans, à très bientôt. À suivre sur Europe 1, la suite de nos aventures donc sur Madagascar. Avec Olivier Poulx, c'est toutes les bonnes choses à manger.
Europe 1, et si on partait? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, tous les jours, un grand voyage dans les endroits les plus étonnants de la planète, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader, d'oublier tout comme ça. Nous sommes aujourd'hui à Madagascar. Alors la cuisine de Madagascar, ça doit être quand même curieux, Olivier Poulx, parce qu'on est un peu proche de l'Afrique, mais en même temps déjà un peu vers l'Asie. Alors, comment ça se passe?
Oui, beaucoup d'influences, hein, vous l'avez dit, africaines, asiatiques, mais aussi européennes, hein, puisqu'il y a eu de nombreuses colonisations et tout le monde y a laissé un peu sa patte. Alors on trouve plein de choses. On trouve beaucoup d'épices, notamment avec le curry, le gingembre. On va parler dans un instant de la vanille, évidemment. Et le repas malgache se constitue en fait de deux éléments, ce qu'on appelle le vari, c'est-à-dire le riz, qui est l'élément indispensable et qui en général représente, alors suivant la richesse de la famille et des gens, entre 30 à 90% de ce qu'on va manger. Mmh. Et à côté, il y a le loaka, et le loaka, c'est le plat. Et généralement, ce sont des poissons, des viandes locales, dont le zébu d'ailleurs, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des plats mijotés, sorte de soupe, et on mélange tout ça. Mais on trouve des choses beaucoup plus surprenantes à Madagascar. La vanille dans un instant, mais vous savez aussi que Madagascar est aujourd'hui un pays producteur de foie gras, figurez-vous.
Ah bon?
Alors ça, on s'y attend
foie
pas
gras
du tout. Mais oui, il y a plusieurs exploitations et on fait un gavage de canard vraiment très traditionnel à l'ancienne dans beaucoup de pays, notamment dans les pays de l'Est où on fait aujourd'hui du foie gras de manière mécanique. Hein. Là-bas, c'est vraiment fait à la main. Alors, on ne va pas faire le débat sur la souffrance de l'animal, mais en tout cas, il y a une signature du foie gras que les gens les plus riches peuvent s'offrir. C'est un mets très recherché, notamment l'alliance foie gras et vanille, c'est quelque chose d'absolument merveilleux.
C'est parfait, un reste du passage des Français, ça ?
C'est forcément un reste du passage des Français qui ont amené avec eux les variétés de canards et le savoir-faire, mais ils perdurent. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine à peu près de fermes qui pratiquent le gavage. Mmh. Puis évidemment, la vanille. Et comment ne pas parler de la vanille ? Et il faut savoir que Madagascar est le premier pays producteur de vanille au monde. Et entre 70 et 80% de la production mondiale provient de Madagascar. Les cours ont explosé ces dernières années. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, le kilo de vanille valait $50. Il en vaut aujourd'hui 500.
Ah bon ?
Alors, en cause, la demande, mais surtout la production qui a été très affectée par de nombreux événements
climatiques. Il y a eu de mauvaises récoltes, en fait.
Il y a eu de très mauvaises récoltes. On annonce, paraît-il, une bonne récolte cette année et les cours devraient rebaisser un tout petit peu. Il faut savoir que la vanille, à l'origine, c'est une orchidée. Hein, c'est une plante qui n'est pas originaire de Madagascar, qui a été importée. Elle est originaire d'Amérique du Sud, du Mexique. Et elle a été importée en 1880 par les colons français.
Ah oui.
Qui ont emmené la vanille dans l'île. Le climat a parfaitement bien convenu. Mais le problème de la vanille, c'est la fécondation de la fleur. Parce que c'est une fleur qui est hermaphrodite et qui ne peut être en réalité fécondée que par une seule espèce d'abeille très particulière qu'on ne trouve qu'au Mexique. Et quand on
ça ne doit pas être pratique pour Madagascar.
Ben non, ni pour Madagascar, ni pour ailleurs d'ailleurs, puisqu'on n'arrivait pas en fait à obtenir de la vanille. Les fleurs poussaient, mais la vanille ne venait pas. Et il faudra attendre un jeune esclave de 12 ans, en 1841, il s'appelle Edmond Albius. Mmh. Et ce Edmond Albius, qui est à La Réunion, va trouver le moyen de féconder artificiellement en quelque sorte, c'est-à-dire avec une petite manipulation dans la fleur, de mettre en contact la partie mâle et la partie femelle, de manière à ce que puisse naître la gousse.
Et c'est lui qui a ensuite inventé ça.
C'est
un jeune
lui
esclave
qui a inventé ça. Et oui, et grâce à lui, on a pu produire de la vanille dans de nombreux pays du monde, notamment à La Réunion, bien sûr, mais aussi à Madagascar. Sans lui, bon, on l'aurait peut-être fini par trouver, mais en tout cas, ça a été absolument déterminant.
J'espère qu'il a été affranchi par son patron.
Ah ben, je l'espère.
Absolument,
et bien récompensé. Alors, la récolte de la vanille, c'est de juin à juillet. Donc là, on est en plein dedans. Et puis, il y a une technique toute particulière hein, pour en exhaler toutes les saveurs. Elle est récoltée, elle est plongée dans de l'eau à 75 degrés. C'est la première opération, c'est l'échaudage. Ensuite, on va lui mettre un petit choc thermique. On va la replonger dans l'eau froide, on va l'étuver. Et puis, on va la faire sécher. Et il faut dire que c'est là que la vanille, ensuite, va être classifiée en fonction de sa taille, en fonction de sa teneur en humidité. Et que vous avez des vanilles de différentes qualités qui peuvent, pour certains d'ailleurs, se garder très longtemps.
Ah, d'accord, ben, dis donc, on apprend de ces trucs. Et Nathalie ?
Méfiez-vous d'ailleurs quand vous voyez des grains de vanille, enfin des petits grains noirs dans certaines préparations industrielles. Ce n'est pas parce que vous voyez des grains noirs qu'il y a de la vraie vanille dedans.
Ah bon ?
Parce que ce sont ce qu'on appelle des gousses broyées, épuisées. C'est-à-dire qu'en fait, on a retiré toute la substance. On s'est beaucoup servi de ces gousses plusieurs centaines de fois, parfois. Et on les a broyées, micronisées pour faire joli dans une préparation industrielle. Donc méfiance.
Et on vous rajoute des arômes artificiels.
Absolument.
De vanille qui n'ont rien à voir avec la vraie vanille. La vraie vanille s'achète fraîche, une belle gousse qu'on fend en deux, on racle avec le plat du couteau de manière à récolter l'intérieur. Ça doit être encore juteux, ça doit être humide. Et alors ça s'infuse dans du lait, dans de la crème, dans tout ce que vous voulez. Préparation salée ou sucrée, les deux fonctionnent.
Vous avez parlé de La Réunion, Olivier, mais justement, il y a une concurrence absolument terrible entre La Réunion et les voisins malgaches sur l'arôme. C'est à celui qui aura le meilleur arôme de vanille. Alors, on ne sait pas trop si c'est les Réunionnais, si c'est les Malgaches. Je vous laisse trancher, mais c'est vrai qu'il y a une concurrence terrible.
Mais
entre les deux.
Il en va de la vanille comme de beaucoup d'épices. Le terroir veut dire quelque chose, et donc la vanille de La Réunion n'a pas le même goût que la vanille de Madagascar ou que la vanille du Mexique ou que la vanille de Tahiti, qui sont différents types de vanille. Si vous avez l'occasion un jour, rien que de les sentir, vous allez voir que ce sont des univers totalement différents.
C'est quoi votre préféré ?
Moi, j'aime beaucoup la vanille de Madagascar parce qu'elle est très explosive et très parfumée.
Merci beaucoup, Olivier. À suivre les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour découvrir Madagascar. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Italie et hop, Madagascar. Nous revoilà dans la quatrième plus grande île du monde. Cette île qui, il y a quelques millions d'années, s'est détachée de l'Afrique pour mener une vie un peu à part. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, vous, si je vous emmenais à Madagascar, là, tout de suite ?
Là, j'aurais envie que vous appuyiez sur le bouton « Téléportation ». Ouais. Sur une île qui s'appelle Sainte-Marie.
Ah ouais.
Voilà, c'est mon coup de cœur absolu. C'est une île de rêve, tout en longueur. Elle fait une cinquantaine de kilomètres du nord au sud,
qui
au large de la côte est du pays.
Ah ouais.
Voilà. Donc très facile d'accès, c'est un vrai paradis tropical. C'est la carte postale malgache. On a beaucoup parlé de retournement des morts et tout ça, mais il y a aussi un côté très lumineux, très solaire, très balnéaire à Madagascar que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment y être en ce moment, je ne vous le dis pas. Je me verrais effectivement bien.
C'est sympa pour nous. Hein.
Oui, non, mais écoutez, je vous décris la scène. Je suis dans un hamac, sur une plage de sable blanc, à l'île Sainte-Marie, à l'ombre des cocotiers, bercé par une petite brise devant mon bungalow, entre deux séances de trempette dans une eau limpide à 29 degrés, mon cher Olivier. Et puis, bien sûr, un petit cocktail de fruits exotiques que
vous
m'apportez, Nathalie.
Voilà.
Pourquoi
oui,
pas.
Vous rêvez un peu beaucoup, je trouve, hein, ces temps-ci. Calmez-vous. Hein.
Ce que vous ne savez pas, vous qui nous écoutez, c'est que ce qu'il vient de décrire, c'est son ordinaire. Hein. Parce que quand on travaille au guide Lonely Planet, ça, c'est le programme de tous les
non,
jours.
Non, c'est hein. Pas tout à fait ça. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Alors, l'île Sainte-Marie, ce qui est génial aussi, c'est qu'on n'est pas simplement là pour la bronzette ou le farniente. Il y a aussi des baleines en ce moment, c'est-à-dire entre juillet et septembre, il y a des baleines à bosse qui ouais. viennent se reproduire, se reposer juste à côté de l'île. Donc, il y a plein de possibilités d'observation de ces baleines. Ces baleines à bosse, elles font quand même 15 mètres de long. On les approche de près en respectant bien sûr les règles pour ne pas les déranger, les brusquer, les perturber.
Il y a une distance de sécurité aussi.
Il y a une distance de sécurité. Ouais. Et une association, un organisme qui s'appelle CETA MADA, CETA comme Cétacé, MADA comme Madagascar, qui s'occupe d'édicter une charte. Il faut vraiment passer par un prestataire qui respecte cette charte d'approche. J'insiste beaucoup là-dessus.
Ouais.
C'est mon côté protection de l'environnement, ça.
Alors, côté paysage, il y a les Tsingy.
Ah, ces Tsingy, je m'en parlais pas. Dans la réserve de Langkarana, dans le nord du pays, les Tsingy. Ce sont ces incroyables formations calcaires aiguisées comme des couteaux dressés vers le ciel. C'est l'image type archétypique de Madagascar. Alors, ce qui est bien dans cette réserve naturelle, c'est qu'on peut s'approcher de cette Tsingy. On ne se contente pas de les regarder de loin. On s'approche en empruntant des sentiers de randonnée qui ont été aménagés sur des passerelles, sur des canyons, au-dessus de ces Tsingy. Donc, en fait, vous marchez, vous avez l'impression de marcher au-dessus de dents de requin qui feraient 30 mètres de haut. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, c'est chouette.
Il y a des belvédères qui sont aménagés tout autour. Vous passez d'une passerelle à une autre, il y a des belvédères. Et donc, vous avez une vue à l'infini sur ces sculptures de pierre qui ont été forgées par l'érosion. Vous pouvez descendre même dans les Tsingy, pas simplement rester au-dessus. Et à l'intérieur, dans ces Tsingy, il y a même des grottes énormes qui ont été aménagées. C'est des endroits, des espaces de découverte. C'est très impressionnant et ça fait partie d'un voyage obligatoire à Madagascar.
Alors obligatoire aussi parce qu'ils sont adorable, moi j'aime bien ces petits animaux.
Je vous vois venir.
Ouais, c'est les lémuriens. Ils sont mignons comme tout, tout poilus. Alors j'ai appris que certains avaient une longue queue et d'autres non.
Alors on va.
C'est le bruit du lémurien.
Le problème des lémuriens, c'est qu'il y en a pas qu'un seul. Il y a une dizaine, une quinzaine d'espèces à Madagascar. On ne sait plus par où commencer. Alors mon préféré, c'est celui qu'on entend là en ce moment. Ça s'appelle l'Indri-Indri, que l'on voit dans le parc national Analamazoatre. À l'est de la capitale, c'est pas très loin de Tana.
Mais ça ressemble à quoi, un lémurien ?
En fait, c'est un espèce de on dirait un singe. Ouais. C'est un croisé entre le singe et l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un pelage,
ouais, je vois bien,
un pelage noir et blanc, un peu comme nous, pelage noir et blanc.
Oui,
ce que je veux dire.
En petit,
oui,
dire.
Ça fait 60
km. Hein.
Non. L'Indri-Indri, c'est 60 cm. C'est quand même une belle bête. Hein. Ouais. Alors, ça vit dans les arbres, dans la canopée, pelage noir et blanc. Alors, l'avantage de l'Indri-Indri, j'aime bien sa façon de vivre, c'est que lui, il vit en couple et il est fidèle toute la vie, ce qui est quand même assez rare dans le règne animal. Et puis tous les matins, les Indri se rassemblent en famille et ils chantent avec ces fameux cris qu'on vient d'entendre. On dirait des bruits de trompettes. Tous les matins, ça se passe comme ça. Et ça s'entend à environ 4-5 km. C'est vraiment impressionnant.
Et qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils crient ?
C'est un cri pour marquer leur territoire, en fait. Voilà. Ils disent, on est là, on existe, c'est le début de la journée, on commence notre journée comme ça.
On dirait un petit gosse à qui on a donné une trompette à Noël.
Ah, exactement. C'est un bruit de trompette.
Voilà. Ça rend dingue.
Ce qui, tout à coup, devient moins agréable. Quand on imagine.
Alors, c'est l'Indri-Indri, voilà.
Alors, il y a un autre animal emblématique de Madagascar dont vous êtes vraiment fan, qu'on peut observer dans un parc. Racontez-nous.
Alors ça, c'est le parc national de la montagne d'Ambre, qui se trouve également dans le nord du pays. C'est un paradis pour les naturalistes et les randonneurs. Je vous présente déjà le cadre, juste pour voir. C'est une épaisse forêt humide, cascade, fougères géantes, orchidées, des lacs. C'est vraiment un décor digne de Jurassic Park. Et dans ce décor-là, dans cet écrin vert, j'ai pu observer l'une de mes espèces préférées, comme vous l'avez dit. C'est le caméléon. On n'en a pas parlé de ces caméléons. Il y a des dizaines d'espèces dans ce parc. C'est vraiment un animal fascinant. Alors celui que j'ai préféré, c'est l'espèce qui s'appelle le Micra. C'est le plus petit caméléon au monde, appelle la taille d'un ongle. Il tient sur votre main, sur votre ongle. Ah oui. Il est vraiment pas farouche, vous pouvez le prendre dans votre main, c'est pas un problème.
Et moi je me suis toujours demandé, à quelle vitesse ça change de couleur un caméléon ?
Alors franchement, pour le changement de couleur, ils ont un système hormonal assez particulier qui leur permet de changer de couleur en un dixième de seconde.
Un dixième de seconde.
De se fondre dans le décor. Mais ça, vous le voyez, si vous êtes avec un guide naturaliste dans ce parc national de l'Ambre, il vous emmènera voir ces caméléons et sous vos yeux, vous verrez ces caméléons changer de couleur. Il y en a un autre que j'adore, c'est le caméléon panthère, le furcifère pardalis. J'ai fait des photos extraordinaires. Alors lui, c'est un beau mouse, c'est pas le tout petit. Un beau mouse qui fait 50 cm, très coloré, vert brillant, rouge, jaune, orange. On croirait un aide-jardin posé dans la forêt. Je sais pas si vous voyez. Et de temps en temps, il change de couleur. Vous avez ça sous vos yeux, c'est un spectacle magique.
Oh, on a envie d'aller à Madagascar, ça y est. Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier, merci à vous tous qui nous écoutez d'être partis en voyage comme ça avec nous à Madagascar. Lundi, on repart ensemble, tout l'été, tous les jours, un grand voyage. On repartira au pays du sourire, au pays des îles sublimes. Je vous emmènerai en Thaïlande. Et juste avant, ce sera Piment d'Espelette, Surf et Béret. Nous irons au Pays Basque. Merci à Lorena Martin, Armel Tiberge qui prépare ardemment cette émission dans l'ombre et Jérémy Hébard qui réalise avec brio. C'est le cri du Jérémy Hébard que vous entendez actuellement. À très vite sur Europe 1. Dans un instant, le grand journal du soir. Bonjour Thierry. Bonsoir Thierry Dagiral.
Bonsoir Philippe, vous allez bien ?
Fort bien.
Parfait, parfait, parfait. Le week-end va être bon pour vous.
Oui, et puis on prépare la suite. Ça va être encore des très beaux voyages toute la semaine prochaine.
Mais rendez-vous lundi donc dès 16h en direct. Merci Philippe.
Absolument.
Bon week-end. Dans un instant, place à l'info sur Europe 1.